notre prochain invité. Il est directeur du Centre québécois de formation en aéronautique. C'est une école qui est rattachée au cégep de Chicoutimi. Et il s'agit de M. Steve Noreau. M. Noreau, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois.
J'avais envie de parler d'aviation puis d'aéronautique parce qu'on constate que, premièrement, il y a plusieurs pilotes d'expérience qui sont cloués au sol à cause des conditions actuelles, et ce, à travers le monde. Et je me demandais, tout à coup, quelqu'un qui vient d'amorcer sa carrière comme pilote d'avion ou quelqu'un qui voulait amorcer des études en aéronautique, est-ce que son avenir vient de changer tout d'un coup compte tenu de l'état de l'industrie de l'aviation? Qu'en pensez-vous, M. Noreau, vous, comme directeur du Centre québécois de formation de nos futurs pilotes?
Bien, on ne se cachera pas qu'on vient de subir un certain recul. Hein. Présentement, les étudiants qui sont en train de subir des formations en pilotage, leur avenir est quand même incertain. L'aviation est un milieu où on subit des contre-coups régulièrement. On se rappelle 2001, on se rappelle 2008. Ça prend quand même certains temps avant qu'on puisse retomber sur nos pattes. Mais on finit toujours par retomber sur nos pattes.
C'est quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans votre programme?
Nous, on a 40 étudiants par année. Donc, vu que c'est un DEC, c'est sur 3 ans. Donc, on a un campus de 120 étudiants.
Et 40, c'est sur... Est-ce que c'est pas beaucoup, mais sur beaucoup d'inscriptions? Est-ce que le ratio d'acceptation, donc c'est assez contingenté, c'est assez limité, c'est-à-dire?
Oui, on a au-delà de 400 demandes annuellement, puis on en prend 40, donc c'est à peu près 10%. Puis on a 3 voies de sortie. On a multimoteur aux instruments, qui pilote de ligne. Ensuite de ça, on a pilote de brousse sur hydravion, puis on a pilote hélico.
Et dans les circonstances actuelles, puis vous avez défini ça, j'imagine que vous gardez le lien, M. Noreau, avec des gens qui ont fréquenté votre école ces dernières années. Je ne sais pas si vous avez eu des échanges avec eux quels échos vous avez de leur situation, les jeunes pilotes qui sont embarqués sur le marché du travail là, des dernières années?
Bien, les jeunes et moins jeunes. Nous, le CQFA, quand même 50 ans, au-delà de 50 ans. Puis on a quand même un très bon réseau, puis on est souvent en contact. Puis j'ai des amis qui sont pilotes chez Transat, Air Canada, qui vont aller voler des avions de brousse pour l'été. Là. Oh. Donc même des pilotes avec beaucoup d'expérience vont se recyclent, ils reviennent à leur premier amour.
Donc ça a un effet domino sur l'ensemble de l'industrie. C'était un jeune qui commence, que t'avais un job à temps partiel, tu viens de la perdre fort probablement, là, à moins que ton père ait de la compagnie.
C'est un effet d'escalier là. C'est le pilote qui était chez Air Canada qui perd son emploi va aller dans le niveau ce qu'on appelle le deuxième niveau pour aller chercher de l'emploi là. Les pilotes de deuxième niveau qui étaient en attente d'avoir un siège ont retombé dans le troisième niveau. Fait que ça a vraiment un effet de cascade. Donc le jeune pilote qui sort de l'école aujourd'hui va certainement avoir à manger son pain noir quelques années avant d'être capable d'avoir une bonne position. Parce que avant la crise qu'on connaît présentement, nos étudiants graduent avec 225 heures. Ils font environ 25-30 heures dans l'été suite à leur graduation. Puis dès l'automne, ils s'en vont comme copilotes chez Jazz ou une compagnie équivalente sur du Dash 8 ou du CRG, un jet régional. Oui. Donc, maintenant, tous ces sièges-là vont retomber sur des anciens pilotes, des pilotes avec plus d'expérience.
Écoute.
Oui, mais il y a toujours l'effet de retraite. Hein. Même si c'est tranquille dans les prochaines années, il y a des pilotes, il y a beaucoup de pilotes qui étaient près de leur retraite. Donc, il va quand même avoir de l'espace. C'est un petit temps mort, mais il y a quand même une possibilité de reprise graduellement. On parle dans un an, peut-être d'un horizon de 2 ans, de revenir à un retour à la normale. Puis on parle, par contre, jusqu'à 5 à 7 ans pour reconnaître la croissance qu'on avait avant la pandémie.
Est-ce qu'on produit de bons pilotes? Je ne sais pas comment ça se mesure, mais est-ce qu'au Québec, puis je ne sais pas s'il y a d'autres écoles que la vôtre, M. Noreau, mais est-ce qu'on produit des pilotes de qualité?
La plupart des écoles au Québec produisent des pilotes de bonne qualité. Ce qui fait la raison pourquoi au Québec, pas seulement au Québec, mais au Canada aussi, on produit des bons pilotes, c'est les exigences de Transport Canada qui sont reconnues presque partout dans le monde. Donc, c'est ce qui fait qu'on forme des bons pilotes.
Et quel est le profil de nos pilotes, la moyenne d'âge de vos étudiants? Ce sont des tout jeunes ou il y en a qui, tout à coup, à 30 ans, décident de se réorienter puis il y a moyen de s'inscrire dans un programme comme le vôtre?
On en a qui sortent du secondaire, puis on en a qui effectuent un retour à l'âge de 30, 34 ans, sans problème, une réorientation de carrière. Donc, même le jeune homme ou la jeune fille qui termine le secondaire va commencer à sa formation, mais assis à côté de lui ou elle, ça peut être un quelqu'un qui a déjà une formation d'ingénieur ou qui travaille déjà dans un autre milieu qui fait une réorientation de carrière.
Des hommes, des femmes, la proportion, ça ressemble à quoi? On pourrait penser, je pense qu'on a tous dans la perception que c'est majoritairement masculin. Est-ce le cas?
Je vous dirais que oui. L'industrie, c'est environ 3%, 3 à 5% de filles qu'on rencontre. Mais depuis quelques années, au CQFA, on axe beaucoup notre information scolaire et tout ça pour les filles. Le métier de pilote, c'est un métier où les filles se retrouvent très bien. C'est un métier qui est structuré, qui a des règles à suivre, qui est encadré. Fait que les filles, naturellement, aiment ça. Fait qu'une fille en aviation est loin d'être perdue, elle se sent à sa place. Fait que nous, présentement, les efforts qu'on met, on a 10% de notre cohorte, c'est-à-dire environ 10 filles qui... 25% de notre cohorte, 10 filles sur 40, 25% qui débutent à chaque année. L'an passé, on avait encore 10 filles. Cette année, on devrait en avoir encore au moins 10 filles. Donc, c'est super intéressant pour les filles présentement. Là.
Qu'est-ce que ça prend comme millage, comme formation et expérience pour piloter un 737, un Boeing d'Air Canada ou un gros avion de Transat ou d'une autre compagnie?
Ça prend des heures de vol.
Combien?
Nous, comme je disais tout à l'heure, nos étudiants graduent avec 225 heures de vol, mais sont outillés pour voler dans pas mal toutes les conditions. Ce qui fait que tu vas être capable de voler un plus gros avion, c'est juste l'expérience, accumulation d'expérience, accumulation d'heures. Donc,
avec un type d'appareil en particulier ou des heures tout court?
La manière ça fonctionne, c'est lorsque tu sors, tu deviens pilote de ligne ou pilote, ce qu'on appelle nous multimoteurs aux instruments, tu voles à peu près n'importe quel type d'appareil, petits appareils comme Piper Navajo qui est 6 passagers ou des choses comme ça. Ensuite, tu vas monter sur un appareil qui est turbopropulsé. Chaque fois que tu vas sur un appareil plus gros, tu dois avoir ce qu'on appelle un PPC. Là, c'est comme la vérification que t'es capable de voler cet appareil-là. Tu comprends tous les systèmes reliés à l'appareil. Et c'est le même tout le temps. Donc, un pilote, quand il commence, il y a un PPC sur tel type d'appareil et à mesure que sa carrière évolue, il va avoir... un cours sur tous les appareils qu'il va voler. Donc, le pilote qui est chez Air Transat sur l'Airbus 330, ben, il a la qualification pour cet appareil-là. Puis, il obtient sa qualification en allant dans un simulateur. Donc, c'est comme ça qu'on peut partir du petit appareil et aller au gros appareil. Les heures de vol et des PPC sur différents types d'appareils.
Et là, dans une année qui est interrompue, qui est affectée par les mesures d'urgence sanitaire, est-ce que vous suivez les recommandations du ministre Roberge puis vous faites graduer les gens selon les notes des deux premières étapes et l'impression que vous avez qu'il fait voler l'appareil popé?
Malheureusement, ou heureusement plutôt. On fait partie du ministère de l'Éducation, donc on a quand même les règles de l'éducation à suivre, mais on fait partie aussi de Transport Canada. Les licences, c'est géré par Transport Canada. Donc, nos étudiants n'ont pas le choix d'aller chercher le nombre d'heures requis pour l'obtention de leur licence. Oui, donc nous, le ministère de l'Éducation, le ministre Roberge, a donné des autorisations le 3 mai de reprendre les laboratoires en respectant les normes de sécurité en vigueur et aussi d'avoir un plan approuvé par la santé publique. Donc, c'est ce qu'on a fait au cours des dernières semaines. On a déposé un plan de reprise qui a été validé par la santé publique régionale. Puis aujourd'hui, on a recommencé le vol en solo, c'est-à-dire des étudiants seuls à bord. Et dès la semaine prochaine, on va recommencer le vol en double commande avec les instructeurs. Mais encore là, les cockpits sont petits. t'es quasiment épaule contre épaule. Donc, ça va être le port du masque obligatoire lorsque tu es dans le cockpit d'avion, parce que tu n'es pas capable de respecter ton 2 mètres.
Ouais.
C'est la règle qu'on doit suivre.
Au moins, nos futurs pilotes ou ceux de la promotion COVID ne seront pas des pilotes à moitié formés. Ils auront eu la formation puis les heures de vol complètes.
Exactement. On va passer à travers. Ça a été quand même toute la planification, mais on va y arriver.
Monsieur Noreau, merci beaucoup et bonne fin d'année.
Merci beaucoup, Monsieur Langlois.
Bye bye, au revoir.